Vous écoutez, on lit pour vous.
La présence, c'est de la prévention. Un texte de Missa Ferra, paru le 21 janvier 2024 dans la presse. L'itinérance à Montréal s'étend bien au-delà du centre-ville. À la suite de plaintes de citoyens l'année dernière, le service de police de la ville de Montréal a lancé une patrouille à pied à Lachine pour aider à résoudre les enjeux de cohabitation et d'insécurité engendrés par le nombre croissant de sans-abri dans le secteur. Seringues qui traînent aux abords des commerces, individus bruyants et désorganisés, vols dans certaines boutiques, excréments trouvés devant des commerces. Les préoccupations des résidents de la Chine évoquées lors des séances du conseil municipal étaient multiples. Le SPVM a donc cherché une solution en partenariat avec l'arrondissement avant que la situation ne dégénère. Depuis octobre dernier, les agents du SPVM Daniel Champagne et Louis-Carl Choquette sont dégagés des appels d'urgence et patrouillent à pied à temps plein. Leur mandat? Être toujours visible, aller à la rencontre des citoyens et des commerçants et tisser des liens avec la population itinérante du coin pour calmer le jeu s'il y a lieu. Et au bout de quelques mois, ils n'étaient plus juste des agents pour les résidents du secteur. Ils sont Daniel et Louis-Carl. Les gens les ont reconnus pendant toute la durée de leur patrouille lorsque la presse les a accompagnés mardi dernier. Premier arrêt. Un groupe d'entraide qui s'occupe de personnes vivant avec un handicap mental. Les bénévoles y sont accueillants et motivés par le désir d'aider autrui. Ça ne les empêche pas d'avoir des soucis de cohabitation avec des personnes en situation d'itinérance qui s'y réfugient parfois, faute d'autres lieux où passer la journée en ces temps froids. L'agent Daniel Champagne jette un coup d'œil à l'intérieur. Pas de problème aujourd'hui. On le sent facilement quand on rentre et que l'ambiance est tendue, précise l'agent Louis-Carl Choquette, collègue avec qui il patrouille depuis 10 ans. Se rendre visible. On ne parle pas toujours de violence lorsqu'il est question de cohabitation chaotique. Ça peut être un individu qui a consommé, crie et gesticule. Ça provoque un sentiment d'insécurité chez les gens, explique Louis-Carl Choquette. Les commerçants sont prêts à aider les sans-abri en les laissant entrer pour qu'ils se réchauffent, mais il reste qu'on a eu des vols dans certaines boutiques. On ne veut pas d'infraction et d'incivilité, rappelle l'agent Louis-Carl Choquette. Il cite l'exemple d'un homme sans logis aperçu plus tôt dans la journée dans les environs. Je sais qu'il ne peut s'approcher d'un établissement de la rue Notre-Dame selon une ordonnance de la cour. S'il s'approche, je vais le lui rappeler. Le fait que les agents sont présents et visibles empêche l'homme de ne pas respecter ses conditions. On lui évite peut-être un passage devant les tribunaux et on s'assure de la quiétude du commerçant en question. Ce type de prévention est seulement réalisable en tissant des liens, en connaissant la population itinérante. Et pour ça, il faut être sur le terrain et prendre son temps. La présence, c'est de la prévention. Clairement, ajoute l'agent Daniel Champagne. Cohabitation difficile. Le propriétaire de Yalla Habibi, nouvellement installé dans la rue, en a long à dire sur l'itinérance. Le petit restaurant est tout neuf, prêt à accueillir des clients. Et parfois, la présence de certains individus le dérange, admet-il. Il se lance dans une longue tirade sur la difficulté de la cohabitation. L'agent Daniel Champagne l'écoute en hochant la tête, compréhensif. Le restaurateur discute d'une femme et d'un homme en situation d'itinérance bien connue dans le secteur. Ils ont un bon cœur, mais ils crient sur la rue. Ils essaient de me vendre des choses qu'ils ont volées. Ils souhaitent garder l'endroit calme et accueillant, surtout sur l'heure du dîner. À la sortie du restaurant, les agents croisent un visage familier. L'homme ne fait rien de mal. Il se promène le manteau ouvert malgré le froid perçant, observe les passants, entre dans les boutiques. Les deux patrouilleurs le saluent poliment, sans engager la conversation. Après tout, l'homme sans logis a le droit de se balader. Il se met à papoter avec les deux policiers de sa forte migraine qui ne veut pas passer. Mais tu sais, j'ai tellement consommé. Tu vois ce côté de mon visage? C'est tout paralysé, admet-il nerveusement. C'est la première fois qu'il nous parle aussi longtemps. C'est un record. On dirait que nos petits « Salut, ça va? » depuis octobre ont été payants, s'étonne l'agent Louis-Carl Choquette. Pour bâtir des liens avec la population itinérante, il faut être patient, ne rien prendre personnel. Parfois, ils ne sont pas réceptifs. Ça aide de ne pas avoir à répondre aux appels d'urgence, souligne l'agent Daniel Champagne. Vous écoutez, la présence, c'est de la prévention, un texte de Messa Ferrat, paru le 21 janvier 2024 dans la presse. Autre arrêt, à la friperie cette fois. Le même homme se présente à la caisse. La propriétaire des lieux, Chloé Boudreau, vient saluer les agents. Elle a l'habitude de leur tournée quotidienne. Il est tout le temps ici, mais il n'achale personne, dit-elle d'emblée, en faisant référence à l'homme à la caisse. Elle demeure consciente que la présence de sans-abri peut rendre certains clients réticents. On est une friperie, donc on demeure accessible à tout le monde. Donc, c'est certain qu'on peut avoir des gens au comportement problématique. Elle applaudit l'initiative de la patrouille à pied, puisque certaines situations nécessitent une surveillance, mais non pas dégénérée au point de devoir appeler le 911. Ça rend l'atmosphère plus calme. Bientôt des ressources? Des magasins à grande surface, des boutiques de vêtements branchées, des restaurants et quelques bars composent la rue Notre-Dame bien animée. Le secteur offre une belle mixité sociale. Il y a des petits lieux de rassemblement, une friperie, des organismes et aucun refuge pour sans-abri. Si une personne originaire de la Chine, en situation d'itinérance, souhaite un lit pour la nuit, elle doit s'en remettre au couchsurfing ou se déplacer au centre-ville, admet l'agent Louis-Carl Choquette. La lueur d'espoir. C'est un bâtiment en construction destiné à accueillir les sans-abri du coin. Le projet annoncé en mars dernier comportera 13 studios pour personnes seules et 5 appartements aménagés pour des couples. Il n'y a pas de date d'ouverture officielle, mais l'inauguration est prévue pour l'automne prochain. Il ne s'agit pas d'un refuge d'urgence, mais bien de logement social destiné à des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. À besoin égal, la mission Old Brewery priorisera des gens ordinaires de la Chine. Comme les logements pour couples sont très rares, il pourrait aussi y avoir des gens de l'extérieur. Ce sont les citoyens qui nous ont sollicités pour ce projet, explique Marie-Pierre Thérien, porte-parole de la mission Old Brewery. Phénomène nouveau. Une chose est sûre. La présence d'autant de gens qui se retrouvent à la rue est un phénomène nouveau dans ce coin de Montréal. André Monette, directeur de l'œuvre Soupe Maison depuis 6 ans, peut en témoigner. L'organisme, fréquemment visité par les policiers lors de leurs patrouilles, distribue de la nourriture et des vêtements d'hiver aux besoins. Au début, on n'avait pas d'itinérance, mais maintenant, ils viennent tous ici. C'est dur pour nous de les aider, ils n'ont pas de logement, donc pas de micro-ondes, rappelle André Monette. La croissance de l'itinérance dans des secteurs inhabituels comme à la Chine pourrait s'expliquer par la hausse du prix des logements, la crise des opioïdes et la suspension de certains services durant la pandémie, selon Vincent Clark, commandant du poste de quartier de la Chine. C'était plus concentré au centre-ville avant. Maintenant, ça s'étire dans les quartiers périphériques, poursuit-il. Quelques tentes ont même commencé à apparaître. Pas de gros campements, mais les balbutiements de ce qui a déjà lieu dans les quartiers centraux. Historiquement, dans l'ouest de Montréal, on n'avait jamais vu ça, des mini-campements de sans-abri. On s'est retrouvé en 2023 avec des citoyens qui ont manifesté un sentiment d'insécurité, indique le commandant Vincent Clark. Il y a aussi les nouveaux visages de l'itinérance. Ils ont perdu leur logement récemment, mais ne connaissent pas les codes de la rue, cette personne-là peut ne pas savoir où aller pour dormir, s'installer, et les citoyens peuvent trouver ça dérangeant. Les problèmes de consommation peuvent créer des attitudes qui paraissent étranges pour la mère de famille qui promène ses enfants le week-end, nous dit le commandant Vincent Clark. Comme la patrouille n'a débuté qu'en octobre, il est difficile de quantifier les progrès. Le commandant constate cependant une nette amélioration du climat social. Ils ne sont toutefois que deux. Sera-t-il nécessaire de bonifier l'équipe durant l'été? Difficile à dire, admet le commandant Vincent Clark. On y lie au fait qu'il y a des difficultés d'embauche au SPVM. On ne peut pas non plus délester tous les patrouilleurs des appels d'urgence au 911. Déjà qu'il y a un gros volume d'appels par rapport à nos effectifs. C'était « La présence, c'est de la prévention », un texte de Messa Ferra, paru le 21 janvier 2024 dans La Presse.
Petit tour du monde de la poutine. Un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 4 février 2024 dans La Presse. La poutine s'émancipe désormais hors des frontières québécoises. Sur la route, une petite nostalgie du pays se fait sentir sur le palais. Voici une sélection d'endroits où on peut dénicher des poutines de par le globe. Paris. La poutine est morte, vive la poutine! Les maisons de la poutine, à Paris et à Toulouse, qui avaient reçu des appels agressifs lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, ont malheureusement fermé. Mais la flamme de la frite fromagée ne s'éteindra pas pour autant dans la Ville Lumière, qui abrite toujours la poutinerie, qui compose avec des ingrédients locaux. Les pommes de terre utilisées viennent de Picardie. Le fromage en grains est produit en Savoie, tandis que la sauce est faite maison. Par la suite, tout tourne autour de la saucisse de Morteau, les falafels, le pastrami, etc. La poutinerie, 49 rue d'Angien, Paris. Plymouth, clin d'œil et petite mousse. Londres regorge de gargotes où la poutine a été portée au menu. Mais dirigeons-nous plutôt vers Plymouth, moins connu, où The Kicking Caribou joue sur le thème en renouvelant constamment le concept. Dans le dernier menu en date, la variation la plus populaire était la poutine Brian Adams, avec frites, fromage en grains, sauce au bœuf, poulet frit, bacon confit et mayonnaise à l'érable. Autre clin d'œil, la Marie-Joseph Angélique, en référence à l'esclave portugaise accusée d'avoir incendié Montréal en 1734, composée de la même base classique avec poulet portugais au barbecue, chorizo, aioli de tomates séchées. À déguster avec une bière, bien sûr. The Kickin' Caribou, 13 Motley Plain, Motley, Plymouth. Cuba, tout inclus, poutine comprise. Une plage de rêve à Cuba, du sable blanc, des cocktails à gogo, un hôtel 5 étoiles, tout inclus, de bonne tenue. Ce n'est pas vraiment le genre d'endroit dans lequel on s'attendrait à se faire servir de la poutine. Mais l'hôtel Melia Las Dunas, dans l'île de Cayo Santa Maria, n'a pas hésité à l'ajouter à son buffet, histoire de ne pas trop dépayser sa clientèle québécoise. Le plat se veut classique, mais présente une drôle de tête avec, à en juger par les photos de voyageurs, du fromage râpé sur le tout. Hôtel Melia Las Dunas, Cayo Santa Maria, Jardines del Rey. New York, bienvenue dans la grosse pomme frite. De passage dans la grosse pomme? Plusieurs enseignes ont porté la poutine à leur menu, l'une des plus réputées étant Pomme frite dans l'île de Manhattan. Ici, c'est une rencontre québéco-européenne, puisque les frites sont préparées à la Belge avec une garniture typiquement nord-américaine. On y trouve donc la recette classique, une option végétarienne, mais aussi une formule spéciale avec champignons sauvages, ail rôti à l'huile d'olive, tomates cerises turques et parmesan. Pommes frites, 128 MacDougall Street, New York. Bangkok. La poutine se taille une place. Fondée par le globe-trotteur Bruno Blanchet et sa conjointe il y a plus de 10 ans, ce restaurant autrefois nommé Snack Bar BKK est l'un des plus connus à servir le plat québécois à l'international. Avec Onicha aux commandes, c'est toujours dans un décor rappelant la belle province, on parle du Québec, pas de la chaîne de resto, que l'on vous sert des poutines à plusieurs sauces, dont, inévitablement, une version thaï avec poulet, chili et basilic. C'est un rendez-vous à Bangkok Poutine, au 35 Samsen Road, Bangkok. Tokyo, crevettes et baguettes. C'est dans la banlieue ouest de Tokyo qu'il faudra prospecter pour mettre la main sur des poutines nippones avec des choix intrigants. Chez Robson Fries, où l'on est servi dans une sorte de grande cahute, outre la classique, on peut goûter une version au porc effiloché et sauce barbecue, une autre de style pizza avec pepperoni, basilic et sauce tomate, ou encore aux crevettes et au basilic. À manger avec une fourchette ou des baguettes? Robson Fries, 45-1, Yanokushi, Inagishi, Tokyo. Sydney, Castor Grassouillet. L'endroit s'appelle The Stuffed Beaver, et ce n'est pas pour rien. Dans cet établissement de Sydney, on envoie du hambourgeois et des ailes de poulet à grande pelletée, mais aussi deux versions du fameux plat québécois. Une première avec frites et sauces traditionnelles, agrémentées de mozzarella. La seconde, poutine du bûcheron, recouverte de bacon grillé. Le tout avec un grand choix d'extra, histoire de rajouter encore un peu de gras. The Stuffed Beaver, 271 Bondi Road, Bondi, Sydney. C'était Petit tour du monde de la poutine. Un texte de Sylvain Sarrazin, paru le 4 février 2024 dans La Presse.
De plus en plus homogène. Un texte de Louise Leduc, paru le 22 janvier 2024 dans La Presse. Les écoles secondaires de Montréal, que l'on qualifie de multiethniques, sont nombreuses aujourd'hui à être de plus en plus homogènes, avec un groupe ethnique nettement prépondérant. L'idéal de mixité recule. De jeunes immigrants de première et de deuxième génération côtoyant finalement peu de Québécois qui sont ici de longue date. Bien avant le français ou toute autre langue, c'est l'arabe qui est la langue du plus grand nombre d'élèves dans les écoles secondaires montréalaises, Pierre Laporte, Émile Legault et Antoine de Saint-Exupéry. Au Collège Saint-Louis, une école publique de Lachine qui offre le programme d'éducation internationale aux élèves forts, sur sélection, 140 mères d'élèves sont nées au Québec, mais 251 sont nées en Chine. Les Québécois de langue maternelle française, à l'inverse, sont largement majoritaires dans plusieurs écoles privées de la métropole. C'est ce qui ressort du portrait socio-culturel des élèves inscrits dans les écoles publiques de Montréal du comité de gestion de la taxe scolaire, de même que des données ministérielles sur la langue maternelle des élèves inscrits dans les écoles privées. La loi 101 est un succès d'un point de vue linguistique. Les jeunes de première ou de deuxième génération parlent très bien français, estime André Bouchard, enseignant à la retraite depuis peu après 32 ans à l'école secondaire. Par contre, pour ce qui est de la culture, le Québec ne réussit pas à faire aimer sa culture parce que les jeunes immigrants de première ou de deuxième génération ont souvent très peu de contact avec la société d'accueil. Sous ses yeux, il a vu l'évolution de son quartier qui se transposait en classe. En début de carrière, il enseignait majoritairement à des jeunes d'ascendance italienne. Ses familles ont déménagé ailleurs et le quartier, aujourd'hui baptisé le Petit Maghreb, attire surtout des familles du nord de l'Afrique. Les flux migratoires changent la composition du quartier et donc de l'école, fait observer M. Bouchard. À cela s'ajoute le fait qu'un grand nombre de Québécois de souche partent vers les écoles privées. Ainsi, à l'école secondaire Pierre-Laporte à Mont-Royal, 3 fois plus d'élèves ont l'arabe comme langue maternelle que le français. À Émile Legault, l'un des 2 pavillons de l'école secondaire Saint-Laurent, 427 élèves ont l'arabe pour langue maternelle, 257 pour le français. À l'inverse, le Collège Notre-Dame, une école secondaire privée, compte 66,8% d'élèves de langue maternelle française. Le Collège de Montréal, lui, en compte 73,2%. Et ce, alors que dans l'île de Montréal, cette proportion n'est que de 38,6%. Des effets de logique ethnique et de classe sociale. Selon Marie Spotvin, professeur de sociologie de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal, UQAM, pas de doute possible. Il y a fuite de parents de certains quartiers vers les écoles privées, en fonction de logiques ethniques et de classes sociales, explique-t-elle. L'exode vers les écoles privées fait en sorte que les francophones sont de moins en moins présents dans les écoles secondaires publiques. Ceux qui y sont toujours se trouvent dans une position unique, majoritaire dans la société, minoritaire au quotidien dans leur école. Marie, prénom fictif, dont la fille fréquente l'une de ces écoles à forte prédominance d'une communauté culturelle, note que dans leur cas, cela se vit bien, avec une certaine adaptation. Quand quelqu'un comme Carl Tremblay meurt, relate-t-elle, ça n'a pas une grande résonance. Ma fille, qui a un chum, le dit à ses amis de l'école primaire, mais pas à celle de son école secondaire, selon lesquelles le début du secondaire, ce n'est pas l'âge des amours. Ma fille a aussi été surprise de la pression familiale qu'ont ses camarades quant aux notes, nous dit Marie. Aussi, souligne-t-elle, les codes ne sont pas les mêmes pour les invitations à la maison. Avec les amis au temps du primaire, ça se faisait sans façon, explique-t-elle, au secondaire. Les parents veulent d'abord nous rencontrer, prendre un café avec nous. Ils n'envoient pas en visite leurs enfants comme ça chez nous, sans nous connaître d'abord. Le risque de représentation fantasmée de l'autre. Paul Haid, professeur de sociologie à l'UQAM, spécialisé dans les questions d'immigration et d'identité, fait observer que les jeunes qui se retrouvent dans une école sans aucune diversité ou ceux qui en fréquentent une où ils n'ont aucun contact avec les Québécois de souche, sont, les uns comme les autres, à risque de tomber dans une représentation fantasmée de l'autre et dans des idées reçues empreintes de préjugés. Maryse Potvin indique que des études ont déjà montré que, dans les écoles québécoises, où il y a 2 ou 3 groupes qui dominent en nombre, le climat est souvent plus polarisé que dans les écoles très multiethniques où le français devient la langue commune dans ces établissements. Une forte concentration d'un groupe d'une origine donnée pose 2 problèmes importants, indique pour sa part la psychologue Rachida Azdouz, chercheuse au laboratoire de recherche en relations interculturelles de l'Université de Montréal. Il y a risque du repli sur son groupe d'origine, par défaut, et un ratio d'accueillants insuffisant pour permettre une interaction significative entre accueillants et accueillis. Le fameux slogan des années 1980 et 1990, « L'école creusait d'intégration », a un peu perdu de sa puissance aujourd'hui. Le rôle de la télévision comme fenêtre sur la société d'accueil est aussi en perte de vitesse. Les jeunes, incluant les natifs, étant moins attirés par les téléromans et émissions pour enfants, par exemple, souligne Rachida Azdouz. L'Internet permet aussi aux jeunes de rester branchés sur leur pays d'origine ou celui de leurs parents. Cela a l'avantage d'éviter aux gens venus d'ailleurs d'avoir une double identité ou une identité multiple, sans se sentir déchiré et obligé de choisir. Mais cela peut en même temps être source de crispation et de repli identitaire, en particulier dans le contexte actuel marqué par la polarisation et le sectarisme. C'est juste des gens normaux de la Gaspésie. Le documentaire « Garçon, un film de genre » de Manuel Folia suit un groupe d'adolescents de l'école secondaire de Matane et un autre de l'école Pierre-Laporte à Montréal. Chaque groupe partira passer quelques jours dans l'école secondaire de l'autre. Le documentaire, sorti en 2023, se termine par des accolades, mais, comme le dit une enseignante, l'accueil fait aux jeunes de Matane, les premiers à être reçus, sera carrément hostile. À l'écran, une jeune fille de Matane racontera s'être fait traiter de plotte gaspésienne. Un autre élève dira que, dans les couloirs, ça t'insultait, te traitait de blanc. Une jeune fille de Pierre-Laporte se demandera quelle mouche a piqué ses camarades. C'est juste des gens normaux de la Gaspésie venus passer une journée. Et une autre de s'inquiéter que la petite minorité des têtes brûlées amènera à tort les jeunes de Matane à penser que tous les élèves de notre école sont comme ça. Votre présence semble avoir causé un effet de curiosité, dira le directeur de l'école Philippe Lamoureux. Plusieurs jeunes se sont demandé qui est ce paquet de jeunes blancs qui débarque. Je suis désolé de ce que vous avez vu. Ils ne sont pas comme cela habituellement. Les jeunes qui ont agi de façon inappropriée ont été rencontrés, a insisté M. Lamoureux. À Matane, le personnel scolaire s'est assuré qu'il n'y ait pas de représailles et que l'accueil des jeunes de Montréal serait chaleureux. C'était « De plus en plus homogène », un texte de Louise Leduc, paru le 22 janvier 2024 dans La Presse.